Le livre de Zacharie, on est au premier chapitre encore. On a commencé la semaine passée, on avait parlé d'introduction un peu des huit visions nocturnes de Zacharie. C'est des visions que le Seigneur lui a données concernant Jérusalem, concernant Juda, puis qu'est-ce que le Seigneur allait faire en rapport avec les nations qui ont dominé, qui ont emmené captif Jérusalem. Puis le Seigneur lui donne au prophète des visions qui, comme on a dit, qui ont un accomplissement proche, mais moins glorieux, mais aussi un accomplissement plus éloigné, mais plus glorieux aussi. C'est certain, quand le Seigneur donnait des prophéties, il fallait que les paroles du prophète soient vérifiées. Si les choses que le prophète avait dit ne s'accomplissaient pas, bien, il devait être lapidé. Mais donc, le Seigneur donnait un accomplissement proche et pour vérifier, mais aussi un accomplissement plus éloigné. Puis c'est sûr qu'au moment où le peuple entendait ces prophéties-là, eh bien, c'était un encouragement aussi pour eux au moment où ils étaient à ce moment-là. C'est qu'on a parlé la semaine passée de la vision du le cavalier parmi les myrtes avec avec les chevaux qui sont allés parcourir pour voir que la terre était vraiment en repos, mais c'était un repos en rapport au fait qu'ils opprimaient Israël et Juda, et qu'ils étaient en repos, ils n'étaient pas dérangés, mais le Seigneur était irrité contre ces nations-là orgueilleuses. Puis il annonçait un jugement sur eux. Donc, on va commencer peut-être notre lecture au verset 18 du chapitre 1. C'est la deuxième vision, qui sont les quatre cornes et les quatre forgerons. Donc, on lit au verset 18, « Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes, et je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons, et je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ces choses qui ont été données il y a longtemps à ce prophète Zacharie qui était destiné au peuple de Juda. Mais on te remercie, Seigneur, que ces paroles ont même pour nous, comme ils ont été un encouragement pour ces gens-là, on sait qu'ils sont un encouragement aussi pour nous autres, Seigneur, à cause de l'accomplissement que tu vas en faire, car tu démontres vraiment ta puissance. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui peux faire et qui peux dire et que les choses s'accomplissent. On te remercie pour ça, Seigneur. On te demande de nous donner des cœurs disposés à recevoir ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme il avait dit au début, il avait parlé, il a dit dans le verset 3, Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Et dit l'Éternel des armées, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Puis ils ont eu les conséquences de ne pas avoir écouté. Puis nous autres, c'est une bénédiction de pouvoir écouter la parole de l'Éternel. Donc, on avait dit la semaine passée que l'Éternel était irrité contre les nations orgueilleuses, comme on voit au chapitre 1, au verset 15, il dit, Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc, ces nations orgueilleuses-là, ce qui arrive, c'est que Dieu les a utilisées comme un instrument de jugement sur son peuple pour à cause de leur désobéissance, à cause de leur éloignement. Mais ce qui est arrivé, c'est que Dieu les a utilisés, mais eux, ils sont allés, ces nations-là sont allées au-delà de ce que Dieu voulait. Parce que vraiment, dans leur cœur, dans leur pensée, ces nations-là, ils voulaient exterminer les Juifs, ils voulaient exterminer Jérusalem. Parce que Jérusalem avait été une ville glorieuse au temps de David et au temps de Salomon, avec une grande puissance qu'ils avaient dominée sur les nations aux alentours. Puis même quand ils ont voulu reconstruire, on sait qu'il y en a qui ont rapporté au roi que cette ville-là avait été rebelle. Puis il y avait eu des rois puissants qui ont régné sur cette ville-là. Donc, ils voulaient vraiment les anéantir pour qu'ils ne soient plus une puissance, qu'ils n'aient plus à redouter cette ville-là. Mais ils sont allés au-delà de ce que Dieu voulait faire en voulant les détruire. C'est pour ça que le Seigneur, en répondant à l'ange de l'Éternel qui intercédait pour Juda quand il disait jusqu'à quand, il dit jusqu'à quand, au verset 12, n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Puis là, l'Éternel, au verset 13, répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Donc, c'est sûr que l'intercession, c'est qu'on a dit que l'ange de l'Éternel, c'était le Seigneur Jésus avant qu'il devienne un homme. Il apparaît dans l'Ancien Testament comme l'ange de l'Éternel. Et c'est quand même encourageant de voir que quand le Seigneur Jésus intercède pour nous, eh bien, sa prière est entendue, le Seigneur répond. Puis il répond par des bonnes paroles. C'est encourageant d'entendre ça. Donc, ici, ces nations-là sont représentées par des cornes dans la vision qu'on voit ici. Quand il dit, je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait quatre cornes. Donc, ces nations-là qui sont représentées par des cornes, puis elles vont être abattues par quatre forgerons. Donc, c'est ça qui est la vision. Et il nous rapporte un rapport avec les nations qui ont dominé, ces nations-là qui étaient des nations puissantes qui ont dominé. Eh bien, le Seigneur, dans sa prophétie, donne aussi la prophétie sur le fait qu'il va avoir quatre forgerons pour abattre ces nations-là. Et au verset 19, elles sont identifiées. Il dit, je dis à l'ange, c'est beau de voir comment Zacharie demande des explications, puis elles lui sont données. Au verset 19, il dit, je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce donc que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc, ils sont identifiés à c'est ceux qui ont dispersé Jérusalem, Israël, Jérusalem et Juda et Jérusalem. Donc, ils sont identifiés. Les cornes, quand on parle de cornes dans la prophétie biblique, eh bien, on sait que ça parle de puissance, ça parle de pouvoir, ça parle des empires qui dominent. Puis, ces nations-là sont représentées par des cornes. Puis elles vont être abattues par quatre forgerons, puis elles vont être identifiées aussi. Mais comme j'ai dit, les cornes dans la prophétie biblique, ça parle de pouvoir. C'est des empires avec leur pouvoir. On sait quand, si on va dans le livre de Daniel, Daniel nous parle, quand il nous parle de ses visions qu'il a eues, de ses puissances, Daniel nous parle de quatre puissances, quatre empires qui vont émerger des nations, parce que c'est ce qu'on appelle le temps des nations dans la Bible. Quand il parle des temps des nations, c'est les temps où le royaume a été enlevé à Israël parce qu'ils ont été emmenés captifs, puis était donné aux nations. Puis on appelle ça le temps des nations. Le temps des nations qui est partir de Nebuchadnezzar, qui va aller jusqu'au temps où le Seigneur Jésus va reprendre le royaume pour le redonner à Israël en lui donnant leur roi, qui est le Seigneur Jésus. Donc, Daniel nous parle de ces cornes-là. Il en fait mention dans le chapitre 7. Si on va dans le chapitre 7 de Daniel, on voit que Daniel utilise ces mots-là pour représenter ces puissances-là. Dans Daniel, comme étant au chapitre 7 et au verset 8, on va lire au chapitre 7 et au verset 8, il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, il parle ici du quatrième empire de Rome, mais Rome dans sa phase finale. Puis, il mentionne ces empires-là comme des cornes. Donc, les cornes, c'est certain que, on voit aussi dans l'Apocalypse, quand il nous parle de la bête, des derniers temps avec des cornes. Si on va dans l'Apocalypse 13 au verset 1, on voit que c'est la même chose ici. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, quand il parle des cornes ici, là, on sait que C'est un langage qui était bien connu par rapport à ce peuple-là, le peuple d'Israël, qui était un peuple de bergers. Ils savaient qu'est-ce que ça représentait quand on parlait de corne comme ça, parce que on disait la corne la plus forte domine le troupeau, hein, parmi les animaux. C'est de ça qu'il nous parle un peu, les animaux qui représentent ou des bêtes qui représentent ces empires-là. Mais c'est dans le troupeau, c'est la corne la plus forte qui dominait le troupeau. Puis comme la corne est toujours l'emblème de pouvoir dans la prophétie biblique. Mais on se demande, Henri Rossier, il disait ça, que la corne est toujours l'emblème du pouvoir. Mais on peut se demander quelles sont ces puissances-là, de qui on parle. Quand Zacharie nous parle de ces quatre cornes-là, donc c'est un nombre exact de quatre, et il y a quatre forgerons pour les abattre. Mais j'ai lu quelque chose par rapport à Henri Rossier, il disait ici, nous retrouvons ici, comme dans la première vision, les diverses puissances hostiles au peuple de Dieu. C'est ça qu'il parlait dans le premier chapitre, là, ces nations-là qui étaient en repos, qui avait rien qui les dérangeait parce qu'Israël était opprimé. Il dit, les diverses puissances hostiles au peuple de Dieu, y compris toutefois la Syrie. Donc la Syrie, on sait que la Syrie, c'est les premiers qui ont dominé, ils ont emmené Israël, les 10 tribus du Nord. Ils les ont emmenés en captivité, puis ils les ont mélangés aussi avec des gens des autres nations. Et donc, il dit ici, y compris toutefois l'Assyrie qui avait dispersé Israël et fut amalgamée plus tard avec l'empire de Babylone. Donc l'Assyrie, puis la Bible nous parle beaucoup de l'Assyrie ou de l'Assyrien. Donc, mais cette Assyrie-là, elle était amalgamée à Babylone. Il avait emmené les tribus du Nord, les 10 tribus du Nord qu'on appelle Israël, qui les avait dispersées, mais il était amalgamé plus tard avec l'empire de Babylone, auteur de la dispersion de Juda. Donc c'est Babylone, l'empire de Babylone qui est venu, qui a détruit la ville de Jérusalem, qui a combattu, qui a conquis la ville, puis qui a emmené les Juda en captivité. Donc, ça, il dit, cependant, Israël ne joue, comme nous l'avons dit plus haut, qu'un rôle tout à fait secondaire dans Zacharie. Parce qu'il parle plus de Juda, puis on sait que quand ils sont revenus de l'exil, ils sont revenus à Jérusalem pour reconstruire la ville, pour reconstruire le temple de l'Éternel. Donc, ici, la prophétie a en vue Juda, mais quand même Israël est là aussi. Mais plus haut, un rôle tout à fait secondaire dans Zacharie, car il n'est plus fait mention qu'au chapitre 10, au verset 7 à 12. Donc, il va en faire mention au chapitre 10, verset 7 à 12, où il dit, Éphraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai, et les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples au loin. Ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants. Ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte. Je les rassemblerai de l'Assyrie. Je les ferai venir du pays de Galaad et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Donc, on voit qu'il y avait en vue quand même, Israël va être en vue, mais ici, dans les visions, il est comme plus question de Juda. Donc, il dit, c'est Jérusalem et Juda qui sont ici particulièrement en vue. Aussi, lisons-nous au verset 21, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda. Puis là, il ne mentionne plus Israël. Au verset 19, il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Mais au verset 21, maintenant, il nous dit, pour effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc ici, il parle plus de Juda ici, là. Donc, c'est ça. Puis là, il dit, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, non plus Israël, comme au verset 19, car Babylone a remplacé l'Assyrien. Dans les cornes, qu'est-ce qu'on voit? C'est les quatre empires. Puis on peut se référer à ces quatre empires-là. Comme on a dit, l'Assyrie était amalgamée à Babylone. Mais on voit, c'est dans la statue de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait eu un songe, il avait vu une statue dans Daniel. Puis Daniel lui a expliqué cette vision-là qu'il avait vue. Puis il avait vu une statue avec les différents métaux, la tête, les bras, le torse, après ça le tronc et les jambes, puis jusqu'aux orteils de cette statue-là. Puis Nebuchadnezzar se demandait ces choses, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis il avait demandé à Daniel, il avait demandé aux sages d'expliquer la vision, mais les sages ne pouvaient pas l'expliquer. Finalement, c'est Daniel qui est venu pour expliquer cette vision-là. Puis c'est quand même remarquable, cette vision-là, parce que on sait que c'était destiné pour Nebuchadnezzar, lui faire comprendre des choses. Mais c'est aussi, ça nous rapporte le temps des nations. C'est de là que ça part avec les quatre empires que Daniel nous décrit ici. Donc, il s'agit premièrement de l'empire de Babylone qui avait été au temps de Daniel. C'était quand Daniel a expliqué la vision de la statue à Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui était avec son empire de Babylone. C'est lui qui était au pouvoir à ce moment-là. Et Daniel lui a expliqué ça. Mais ensuite, après, sont venus les Mèdes et les Perses. Donc, il y a eu Babylone, ensuite un empire qui vient moindre en valeur, parce que la première, c'était en or, après ça, c'est l'argent, puis le bronze, ensuite le fer, puis le fer et l'argile à la fin. Donc, ça diminue toujours en valeur dans cette statue-là. Mais au temps de Zacharie, ils étaient rendus maintenant aux Mèdes et les Perses. Puis quand la vision est venue à Nebuchadnezzar, c'est lui, parce que Daniel a dit, c'est toi qui es la tête en dehors de la statue. Puis on sait qu'après ça, Nebuchadnezzar, il voulait pas penser qu'il serait défait. Et il a fait une statue tout en or. Donc lui, il voulait que la statue le représente lui-même. Il a fait une statue tout en or, mais vraiment, le Seigneur avait dit que il y aurait d'autres qui viendraient d'une valeur un peu moindre, les Mèdes et les Perses. Puis du temps de Zacharie, maintenant, c'est les Mèdes et les Perses qui sont en haut pouvoir, qui ont défait la statue ou l'empire de Babylone, qui ont pris sa place. Ensuite de ça viendraient les Grecs, le troisième et le quatrième, c'est les Grecs. Ensuite, Rome, qui était encore à venir au temps de Zacharie, parce que Zacharie, lui, était au temps des Mèdes et des Perses, qui vont venir après. Mais c'est remarquable, on voit dans le chapitre 2, au verset 4, que Zacharie était un jeune homme à ce moment-là. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte. Donc, Zacharie était un jeune homme, mais en dépit de son âge, qui était jeune à son âge, il ose poser des questions qui vont lui être répondues. On pense à Paul qui disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est sûr que quand on est jeune au début, on n'a pas l'expérience, puis on n'a pas l'autorité que donne l'âge dans le Seigneur quand il nous parle des anciens, tu sais, ou des gens qui ont été là auparavant. Mais malgré son jeune âge, il demande des questions à l'Éternel. Il dit, je dis à l'ange, au verset 19, je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Donc, il demande des questions, mais il ose poser des questions. Qu'est-ce que ces cornes? Puis encore au verset 21, il dit, que viennent-ils faire? C'est ça qui est merveilleux dans le sens avec le Seigneur. Vous savez, on peut poser des questions au Seigneur, on peut lui demander des choses, on peut lui demander de la compréhension. Puis Daniel, pas Daniel, mais Zacharie voit ces visions-là, mais il a besoin d'explications. Puis le Seigneur va lui donner les explications. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc, puis là, on a vu c'est quoi ces cornes-là. Mais maintenant, il va lui révéler ce que font les quatre forgerons. Donc, il y a quatre forgerons qui vont venir, puis eux, il va leur révéler quels sont ces forgerons-là. Même au verset 4 du chapitre 2, on voit il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Donc, il s'empresse de donner l'explication à Zacharie. Puis c'est merveilleux, on voit que, comme au verset 18, il dit, je levais les yeux. Quand on lève les yeux, on lève les yeux vers le Seigneur. Puis c'est pour ça que si on ne s'attache pas aux choses de la terre, si on s'attache aux choses célestes, on est ressuscité avec Christ, on a accès dans les choses célestes, eh bien le Seigneur va nous révéler ces choses-là. Donc, quand il parle des forgerons, on sait que le premier empire, la première corne, c'est Babylone. Et ensuite de ça, c'est les Mèdes et les Perses. Mais le Seigneur utilise ces forgerons-là pour abattre, pour abaisser la puissance de ces nations-là, parce qu'elles sont orgueilleuses. C'est pour ça que le Seigneur les abaisse. Puis on va voir plus tard que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il va avoir une domination éternelle parce que lui, son règne va être basé sur la justice. Tandis qu'eux, ce n'était pas basé sur la justice. On sait que quand Babylone a été prise, Belshazzar, il avait pris les objets du temple dans son orgueil parce qu'il se croyait invincible. Il avait pris pour boire puis avec ses grands dans les vases du temple. C'est un peu comme pour se moquer. Puis Dieu lui a envoyé une main, une extrémité d'une main qui écrivait sur le mur, que son royaume avait été compté, pesé et divisé. Donc, le Seigneur est capable d'abattre ces grands empires-là qui se croyaient en pleine sécurité à cause de leurs murailles, à cause de leur empire. Mais le Seigneur est capable d'abattre. C'est pour ça que les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone. Puis même celui qui est Darius qui a conquis Babylone, eh bien, c'est lui qui a pu prendre dans cette nuit-là même. Cet empire-là, elle est tombée rapidement. Quand il se croyait en sécurité, elle est tombée rapidement. Donc, les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone. Les Grecs ont conquis l'empire Médo-Perse. Les Romains ont conquis les Grecs. Donc là, maintenant, on a trois forgerons qui ont conquis ces empires-là. Mais le quatrième, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui, lui, va conquérir le dernier empire, puis il va reprendre. Si on va dans Daniel, on voit dans Daniel, dans l'explication de ces choses-là, dans Daniel au chapitre 2, Daniel a donné ces explications-là, comment ça va arriver. Puis si on va au chapitre 2 de Daniel, on va aller au verset 36 à 45. Verset 36 à 45. Et voilà le songe. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. C'est ce qu'ils ont oublié, ces nations-là. C'est le Dieu des cieux qui leur avait donné l'empire. La puissance, la force et la gloire. Donc, ils sont montés en puissance, en force et en gloire, mais ils ont pensé que c'était d'eux-mêmes. Hein, c'est l'orgueil de l'homme. Et c'est le Seigneur qui avait permis à cet empire-là de pouvoir monter comme ça en puissance, en force, en gloire, parce qu'il voulait les utiliser comme un instrument de jugement pour son peuple. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, donc c'est ça, ça ne sera pas éternellement, son royaume ne sera pas éternel. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. C'est drôle à dire parce que ce royaume-là, en étant moindre, va conquérir cet empire-là qui était plus grand. Donc le Seigneur utilise les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles pour confondre les fortes. Donc, il est capable d'utiliser le Seigneur, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait en sorte qu'il va prendre un royaume, comme il dit ici, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Ça, c'est en accord avec la valeur des métaux qui est représentée dans la statue. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain, encore moins puissant, et dominera sur toute la terre. Puis, au verset 40, il dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Donc, ce n'est pas des vraies alliances fortes, c'est des alliances d'intérêts particuliers. C'est des intérêts, des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, donc là, on se rapporte à la fin de la statue, à la fin du temps des nations qui ont été conquises. Maintenant, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et le songe est véritable et son explication est certaine. C'est ça, à peu près ça, Nebuchadnezzar, il fait sa statue en or, puis le Seigneur va l'abaisser. Il va l'amener à vivre comme les bêtes des champs, à manger de l'herbe, tout ça, pour lui montrer jusqu'à ce qu'il lève les yeux vers le Seigneur, puis qu'il voit que c'est lui qui dirige toutes choses. Donc, il est capable d'élever, puis il est capable d'abattre aussi. Ça, c'est ça qu'il devait reconnaître. Nebuchadnezzar a reconnu ces choses-là. Il a reconnu que le Seigneur, c'est lui qui donnait l'empire, la puissance, la force et la gloire, puis il était capable aussi de l'enlever. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, on voit que cette dernière puissance-là, comme il parle de cette pierre-là qui était brisée, comme il dit au verset 45, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, le Seigneur, ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, il est le dernier forgeron dans un sens. Son empire, son royaume, maintenant, va être à lui, va être éternel, pas comme les autres empires les quatre autres empires qui ont été auparavant. Donc, il y a quatre empires. Mais il y a quatre forgerons qui nous amènent au Seigneur Jésus-Christ, parce que Babylone n'est pas un forgeron, c'est les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, ensuite le Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé intéressant aussi dans Henri Rossier qui dit dans son livre, il dit, ces ouvriers ou ces forgerons sont des agents providentiels destinés à remplir de terreur les empires des nations et à détruire leur puissance, ce qu'ils ont été dans l'histoire du passé, ce qu'ils seront dans celle de l'avenir n'est pas spécifié. Un ouvrier peut avoir des instruments divers pour accomplir son œuvre et provoquer la chute de l'édifice le plus solidement établi. Le Seigneur nous dit aussi dans sa parole que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc, il faut faire attention. Le Seigneur, il peut élever, le Seigneur peut abaisser. C'est quand on s'élève en orgueil, le Seigneur est capable de nous abaisser. Puis c'est ça qu'il dit ici. Un ouvrier peut avoir des instruments divers pour accomplir son œuvre et provoquer la chute de l'édifice le plus solidement établi. L'intervention d'un seul homme, des circonstances morales, une barrière mise au commerce. Puis on voit ces choses-là arriver aujourd'hui dans la politique. Hein, il y a des puissances, puis il arrive des choses dans ces puissances-là, à un moment donné, qui minent l'autorité, qui minent la puissance. Puis il dit, une barrière mise au commerce, des désastres nationaux ou terrestres, des guerres surtout, sont autant d'instruments par lesquels Dieu a détruit les plus grands empires qui aient jamais existé. Les empires puissants, Nebuchadnezzar, c'est un empire puissant, là, puis il a été défait. L'esprit reste songeur devant la facilité avec laquelle ces immenses et glorieux édifices se sont écoulés. Donc, c'est quand même, nous maintenant, on a le privilège de regarder en arrière, puis on a le privilège de voir que ces grandes nations-là, si on pense au temps de Nebuchadnezzar, quand Daniel a eu, il a expliqué cette vision-là à Nebuchadnezzar, c'est sûr qu'il voyait la puissance, la force, la gloire de Nebuchadnezzar. C'était difficile de penser que quelqu'un, même un empire moindre, pourrait faire écrouler cet empire-là. Mais c'est arrivé. Maintenant, nous, on regarde puis on voit que ces choses-là sont arrivées exactement comme le Seigneur l'avait dit. Donc, il dit ici, l'esprit reste songeur devant la facilité avec laquelle ces immenses et glorieux édifices se sont écoulés. Ce que Dieu C'est que Dieu était derrière la scène. C'est ça. À travers ça, on voit que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui fait en sorte que ces choses-là arrivent. Puis il est capable de les contrôler aussi. C'est ça qu'il fait. Donc, il dit, c'est que Dieu était derrière la scène, et tandis que les empires étaient encore en repos et tranquilles, comme on a vu dans le chapitre 1, il n'y avait pas de problème, tout semblait bien aller, mais les choses allaient se détériorer pour eux autres. De quelle façon? Le charpentier sciait en secret les poutres et les colonnes, le maçon déplaçait la clé de voûte, le constructeur sapait sans qu'il y parût les fondements cachés. Ici, et là, un grincement de scie, un vacillement du toit, un ébranlement du sol semait l'épouvante, puis la confiance aveugle renaissait jusqu'au jour où le travail accompli, tout s'écroulait à la fois. Ça, c'est le Seigneur peut faire ça. Comme ces empires-là sont, ils semblent vraiment puissants, vraiment imprenables, mais tout d'un coup, un petit peu ici, un petit peu là, des choses qui se passent. Dieu, derrière la scène, est en train d'apporter ce moment-là fatal où tout va s'écrouler, même cet édifice-là qui est si puissant s'écroule tout d'un coup. Et quand j'avais lu une fois, il parlait d'un grand arbre qui était majestueux, puis tout d'un coup, le vent l'avait jeté à terre. Mais quand le vent l'a jeté à terre, on avait vu que les fourmis étaient entrées dans cet arbre-là, puis qui avait mangé l'intérieur de l'arbre, qui paraissait quand même majestueux et puissant, mais parce que ces fourmis-là, les petits insectes qui étaient venus, ils avaient entré dans l'arbre, puis là, tout d'un coup, le vent est venu, puis il a jeté cet arbre-là à terre. Donc, ça, c'est. On voit ça, peut-être qu'on pourrait aller dans l'Apocalypse, parce qu'on va voir dans l'Apocalypse une grande puissance aux yeux des hommes. Puis c'est la fin de ces choses-là. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, pardon, au chapitre 18, c'est bien que les gens sont étonnés de voir cette grande puissance-là qui était amenée, une puissance qui semblait imprenable, puis tout d'un coup qui s'écroule et qu'on voit que c'est tombé par la puissance de Dieu. Ça, on voit dans l'Apocalypse, au chapitre 18, on voit au verset 10, pardon, chapitre 18 et le verset 10, il est dit ici, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Donc ils sont là, puis ils contemplent cette grande ville-là qui semblait imprenable, cette grande Babylone-là. Et il se sentait en sécurité avec cette grande île-là qui dirigeait, qui était en puissance. Puis il dit, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Les gens vont considérer ça, ils vont voir comment la puissance, c'est quelle puissance qui va jeter à terre cette grande ville-là, mais c'est la puissance de Dieu. Dans le verset 16, il nous dit aussi, et ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et vous, ici, c'est comment c'est tellement rapide par rapport à cette. Même si la puissance était grande, même si la majesté de cette ville-là était éblouissante, en une seule heure, elle a été détruite parce que c'est le Seigneur qui l'a fait. Dans le verset 19 encore, il dit. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Puis ces empires-là, ils sont détruits rapidement aussi, malgré leur puissance, malgré leur force, puis leur gloire. Tout s'écroule rapidement parce que le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui est derrière tout ça, puis qui fait en sorte que ces choses-là s'écroulent. Puis là, ils vont s'écrouler. Quand Daniel l'a annoncé à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ne l'a pas cru au début. Puis qui l'aurait cru? Peut-être que même Daniel se disait, c'est quasiment impossible, mais le Seigneur l'a dit. Puis quand le Seigneur l'a dit, ça va arriver exactement comme le Seigneur l'a dit. Puis, comme Babylone ici, en une seule heure. Ces choses-là aussi, on pense à Belshazzar, cette nuit même, Daniel lui avait annoncé, son empire va tomber, puis il va être pris. Donc, c'est ça qui arrive. Mais on voit que le quatrième forgeron, eh bien, lui, il ne sera pas détruit. Parce qu'il va prendre cet empire-là, qui est l'empire de Rome, reconstitué, puis aussi en même temps, tous les quatre autres empires. Parce que la statue de Daniel, la pierre qui était détachée de la montagne, sans l'aide d'aucune main, vient frapper la statue dans les pieds. Mais c'est toute la statue qui s'écroule, puis qui est emportée par le vent, comme la balle est emportée dans l'air. Donc, c'est le Seigneur, il conquiert et conquérit non seulement juste la Rome qui va être reconstituée à la fin, mais tout, il reprend vraiment des nations, ce royaume-là. Le temps des nations se termine là. C'est le Seigneur Jésus qui, lui, il va reprendre le royaume. Puis c'est pour ça que les Juifs avaient toujours en tête, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Puis le Seigneur est venu, il l'a offert. Il est entré dans Jérusalem sur un ânon. Voici ton roi vient à toi, humble et monté sur un ânon. Ils ne l'ont pas reçu. Mais c'est pour ça que les disciples, avant que le Seigneur parte, ils disent, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume? Ils ont toujours en tête, le temps des nations va finir par s'arrêter. Puis le Seigneur va reprendre de tous les empires. Tous ces empires-là, ils sont complètement détruits. Puis c'est le Seigneur Jésus qui prend le pouvoir à ce moment-là. Mais on va aller dans Hébreux au chapitre 1. Dans Hébreux au chapitre 1, voir pourquoi. C'est ce qui fait la différence entre ces empires-là et l'empire du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit au chapitre 1 et au verset 8 et 9 de Hébreux, il dit, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, donc c'est le trône du royaume, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est ça qui manquait à ces nations-là, c'est l'équité. Au verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc, c'est un règne qui est un règne éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et pourquoi qu'il est éternel? C'est parce qu'il est fondé sur la justice. Il est fondé sur l'équité. L'équité, c'est le contraire de l'iniquité. Donc, le Seigneur Jésus, lui, il va avoir un règne éternel, mais les autres, ce n'étaient pas fondés sur la justice. On sait ça parce que comme Belshazzar, il s'enivrait avec ses grands, puis il se moquait de Dieu, puis il a subi les conséquences de son péché. Mais le Seigneur Jésus, lui, c'est ça qui fait la différence, c'est que lui, il est le roi de justice. Il est le roi qui va être éternel. Comme pour le reste de la prophétie, il y a un accomplissement partiel, parce que là, Zacharie parlait au peuple de Juda et que c'était un accomplissement de près. Maintenant, ils étaient revenus de l'exil, puis maintenant, ils avaient recommencé à reconstruire la ville de Jérusalem. Ils avaient commencé, mais ce n'était pas eux qui allaient dominer encore sur les nations, parce que le temps des nations n'était pas encore à son terme, n'était pas encore tout accompli. Donc, ils allaient rebâtir la ville, rebâtir le temple, mais donc, il y avait un accomplissement plus près, mais partiel, qui n'était pas aussi grand que qu'est-ce qu'il est annoncé ici. Donc, on va le voir quand on va voir l'homme et le cordeau pour mesurer Jérusalem. Mais il va avoir on regarde plus loin, puis il va avoir un accomplissement de ces choses-là. C'est sûr, le Seigneur Jésus, à ce moment-là, n'a pas encore venu frapper la statue dans les pieds parce qu'il restait encore les deux empires. Les Grecs et Rome qui devaient venir après le temps de Zacharie. Mais il y a quand même un accomplissement à ce moment-là, mais ce n'était pas là que le royaume allait être rétabli à Jérusalem par le Seigneur Jésus-Christ. Au jour de Zacharie, Jérusalem a été rebâtie, puis le temple aussi, mais c'était à cause de la parole de l'Éternel, parce que lui, il a utilisé Cyrus pour l'accomplir. Si on va dans Esdras, au chapitre 1, versets 1 à 2, Esdras, le Seigneur a permis ça. On sait que Israël, Juda ici est dans la faiblesse. On sait qu'ils sont dans la faiblesse. Ils construisent le temple, puis construisent Jérusalem, mais c'est dans la faiblesse. Ça va dans Esdras, au chapitre 1, et versets 1 à 2. Ça, c'est après avant Néhémie, après le livre des Chroniques, on a Esdras, puis là, on arrive au chapitre 2, et chapitre 1, versets 1 et 2. La première année de Cyrus, roi de Perse, donc c'est l'empire des Mèdes et des Perses, ici maintenant c'est la Perse. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc, on voit ici que c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit. À travers tout ça, on sait qu'il y a des grandes puissances, là, ces empires-là sont puissants, mais le Seigneur a dit, il a dit par Jérémie qu'après 70 ans, puis Daniel avait lu ça, les paroles de Jérémie, puis quand il a su qu'après 70 ans, il devait retourner captif, retournerait à Jérusalem, eh bien, il s'est mis à prier parce qu'il savait que c'était la volonté du Seigneur, puis il a prié ainsi. Mais on voit à travers tout ça, toute cette puissance-là, ces gens qui dominaient sur le peuple d'Israël, le Seigneur a quand même dit, par la parole, puis il a suscité cet homme-là, Cyrus, puis il a dit qu'il m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc, il a donné l'ordre d'aller reconstruire pour l'accomplir. Donc, le Seigneur utilise quand même ces gens-là à son escient pour faire en sorte que ces paroles-là, que quand il parle de la vision de Zacharie ici, là, ces choses-là vont arriver, puis ils vont aller reconstruire. On va aller peut-être dans le psaume 45 pour voir aussi comment le Seigneur Jésus, c'est à cause de sa justice. Au psaume 45, les versets 3 à 8, il dit, Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Puis là, il dit, Ton trône, ô Dieu, est à toujours, ô Éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et vous ici, comment le Seigneur Jésus ici est celui qui va vraiment prendre, pas au moment de Zacharie, c'est-à-dire qu'au moment de Zacharie, il va y avoir Zorobabel qui est plus comme un gouverneur, c'est un descendant de David, mais à cause de la malédiction prononcée sur Jéconias, il avait dit qu'aucun de ceux qui sortiraient de lui ne pourrait s'asseoir sur le trône de David. Donc, il ne sait pas. Zorobabel était un descendant, il y avait Salatiel, après, ensuite de ça, Zorobabel, qui sont venus, mais il n'était plus assis sur le trône d'Israël. Le trône était. C'était le temps des nations qui avait détrôné celui qui était sur le trône de David. Puis aucun de ses descendants ne s'asseoirait sur le trône de David. Donc, Zorobabel était plus comme un gouverneur dans le temps de Zacharie. Puis il allait quand même travailler, construire, on appelle le temple de Zorobabel, le temple qui a été reconstruit à ce moment-là, dans des temps plus fâcheux. C'était difficile, ça n'a pas été avec une grande puissance que ce temple-là, puis cette ville-là ont été rebâties. On sait qu'il y avait des ennemis des Juifs quand on lit dans Néhémie, puis dans Esdras, il y avait des ennemis qui empêchaient le peuple juif de construire. Puis même comme Zacharie, puis Agée, ils les ont mis au défi de continuer le travail parce que c'était dans la faiblesse. Mais quand le Seigneur Jésus, lui, va établir son trône, quand il va établir son règne, ça va être avec une grande puissance. Puis ça, on va le voir en avançant dans les visions. C'est le Seigneur, il va l'accomplir avec une grande puissance. Puis là, son trône à lui, il va être éternel. Mais, parce qu'au moment où Zacharie ou recevait ces visions-là pour sa prophétie, eh bien, on sait qu'il y avait encore deux autres empires à venir, qui vont venir avec aussi une certaine puissance donnée par le Seigneur, qui vont dominer. On sait que quand le Seigneur Jésus est venu à Jérusalem, ben, Jérusalem était dominée par les Romains. Puis même c'est un gouverneur romain qui crucifiait le Seigneur Jésus-Christ à la demande des Juifs qui ont dit, on ne veut pas de cet homme pour régner sur nous. Puis on dit, si tu ne le crucifies pas, tu n'es pas un ami de César. Donc, ces puissances-là devaient venir encore. Ils n'étaient pas encore venus. Ils venaient après la vision de Zacharie. Mais comme on dit, Zacharie voyait plus loin, au-delà de ces deux autres empires-là. Puis en incluant les quatre, eh bien, il viendrait un jour celui qui était la pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main, qui viendrait frapper la statue dans les pieds, puis toute la statue au complet s'envolerait, elle serait toute brisée, puis emportée par le vent. Ainsi, c'est ça que se terminerait à ce moment-là le temps des nations. Puis là, c'est le Seigneur Jésus qui s'assoit sur le trône, le fils de David. On sait que le Seigneur Jésus, lui, peut échapper à la... il échappe à la malédiction qui a été prononcée sur Jéconias, parce que lui, il n'est pas... Joseph est un descendant de Jéconias. Donc, après Jéconias, il n'y a pas eu de gens qui se sont assis sur le trône de David. Mais le Seigneur Jésus étant le fils adoptif de... Son père était son père adoptif, Joseph. Donc, il est descendant, mais n'est pas... Il échappe à la domination, à la malédiction prononcée sur Jéconias et à cause de la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. Marie aussi étant une descendante de David par Nathan, mais le Seigneur Jésus, lui, est celui qui peut maintenant s'asseoir sur le trône de David, puis il est le dernier forgeron qui conquit, qui abat la dernière puissance du temps des nations, c'est-à-dire Rome, dans sa reconstitution, et puis de la fin. Et c'est lui maintenant qui établit son règne éternel pour un règne basé sur la justice. Sur la justice pour cela qui devient un règne éternel. Fait que je m'arrête là pour ce soir. La prochaine fois, on regardera la troisième vision. Là, c'est l'homme qui tient dans sa main un cordeau. Fait qu'on s'arrête là pour ce soir, puis je vous donne l'opportunité, je vous donne l'opportunité de pouvoir reprendre votre micro si vous avez des questions ou des commentaires à faire.
J'ai aimé ta dernière expression. Jésus-Christ, c'est lui qui va abattre le penser à un jeu de quilles. On voit les quilles en avant, les nations, les puissants, peut-être les 10 orteils, je ne sais pas, j'ai jamais joué au quilles, mais je vois comme les 10 orteils monter en l'air, puis dans un de l'eau, la bille va arriver, puis toutes les billes vont tomber, toutes les quilles vont tomber.
Toute la puissance va être abattue, puis c'est juste la puissance du Seigneur qui va être manifestée.
Gérald, on a la restauration de Jérusalem, puis de la tribu de Juda. Il semble que c'est relativement facile de voir les événements autour de les deux tribus là, de Juda-Benjamin. Mais les 10 tribus d'Israël qui ont vraiment été dispersées, mêlées avec les peuples d'alentour, ce qui semble être les Samaritains, on ne voit pas de... En tout cas, j'ai pas dans ma tête des prophéties sur eux autres, mais on sait qu'ils vont être rétablis, c'est sûr, là. Mais je vois pas de rétablissement comme à Jérusalem. Je sais pas si il y a des parties qui m'échappent, là, mais ce bout-là, il me semble qu'ils sont tellement mêlés que ça va être difficile de les démêler, de les
Ouais.
ramener dans leur pays.
Alors, on sait que comme on a lu tantôt dans Zacharie au chapitre 10, là, il parle d'eux autres. Il parle au verset 7, il dit, l'Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vent, leurs fils le verront, ils seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel, je les sifflerai et les rassemblerai car je les rachète et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir du pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Donc, on voit que la prophétie les inclut aussi. Mais il y a une chose que, oui, c'est vrai qu'ils ont été dispersés par la Syrie, puis la Syrie les ont mêlés avec des nations qui ont venu vivre dans leur ville. Mais on sait qu'il y a des gens de toutes les tribus qui sont allés, parce que leur centre, vraiment, c'était Jérusalem, mais ils ont abandonné leur centre. Ils ont construit, comme Jéroboam, il a construit un autel, puis il a fait tout un semblant de religion pour eux autres qui n'était pas basé sur les instructions de la parole de Dieu. Il a fait des veaux à Bethel, puis. On voit même au temps de la Samaritaine, hein, on dit, vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on adore, puis nous autres, on adore sur la montagne. Mais le Seigneur, il y en a parmi toutes les tribus qui sont allées à Jérusalem. Puis les Lévites, parce qu'ils ont été maltraités, sont retournés à Jérusalem aussi. On voit ça comme Josias, dans le réveil de Josias, il a envoyé une invitation à toutes les autres tribus de revenir à Jérusalem. Puis de venir adorer. Donc, puis autant que le Seigneur Jésus était sur la terre, ben, il y avait Anne qui était de la tribu d'Aser, il y avait aussi celui qui a vu le Seigneur Jésus, il l'a pris dans ses bras. Il y avait des gens des autres tribus qui étaient à Jérusalem, qui ont cherché refuge à Jérusalem. Puis le Seigneur peut les ramener, il dit, je vais les siffler, je vais les ramener. Donc, le Seigneur, lui, il peut même, quand on pense à la résurrection, il y a des gens qui ont été dévorés par des animaux, il y a des gens qui sont perdus, qui ont été brûlés, puis tout ça, puis le Seigneur peut ramener quand même. Il y a la puissance. Lui, il connaît exactement comment les ramener, puis il va les ramener parce que les prophéties aussi leur donnent. Mais à ce moment-là, ils vont reprendre leur centre parce que c'est le Seigneur Jésus qui va être assis sur le trône à Jérusalem. Puis toutes les tribus, il n'y aura plus la division entre les tribus du nord puis ceux du sud, Juda et Jérusalem. Ils vont être un. C'est dans Ézéchiel, je crois, qui parle qui fait deux bois. C'est-tu Ézéchiel ou Jérémie? Il dit qu'il met deux bois. Un, c'est pour Juda, puis un, c'est pour Éphraïm, puis il les ramène ensemble. Puis elles sont unies, puis ils ne seront plus deux. Ils vont être un.
Je pense peut-être aussi au chapitre 7 de l'Apocalypse, hein, les 144 000.
Ouais, c'est ça,
À ce
ouais.
moment-là, on les voit qui sont réunis ensemble pour témoigner l'Évangile.
Ouais, des 12 tribus.
Aussi, tu viens pour la vision des eaux dans Ézéchiel aussi, hein, que Dieu les rassemble, toutes les eaux sont toutes desséchées, mais Dieu, il va par étapes. Il va par, il ramène, il ramasse, il rassemble les eaux, après ça, il leur met de la chair, après ça, il met un esprit de vie. On voit, c'est par étapes que ça se fait.
C'est ça, ouais.
On le voit aujourd'hui même, ça se voit avec
Ouais.
l'antisémitisme que partout qu'il y a dans le monde, ça rapproche les Juifs à retourner en Israël.
C'est ça, exactement. Puis le Seigneur dit dans le chapitre 4, au verset 6, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. C'est par son esprit qu'il fait ces choses-là. Ce n'est pas la force de l'homme, c'est vraiment par l'esprit du Seigneur. Puis comme tu dis dans la vision des ossements, ben, il dit l'esprit, il dit prophétise. C'est quelque chose, c'est pour ça que, vous savez, l'incrédulité, nous amène à douter de ces choses-là. Parce qu'on manque de voir la puissance de Dieu. C'est pour ça que l'incrédulité, pour aujourd'hui, c'est triste de voir qu'il y a des chrétiens qui ne croient plus à ce qu'Israël soit restauré, puis qu'il y ait un temps glorieux pour Israël. Mais ce temps-là, glorieux pour Israël, va être aussi pour les nations, parce que les nations vont venir à Jérusalem aussi. On voit la gloire future. Ça va être une grande gloire, la gloire future. Si la gloire de Jérusalem, au temps de David et de Salomon surtout, était grande, il dit, voici, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Donc, son royaume va surpasser en puissance. Il va avoir vaincu tous ces empires-là. Il va être établi sur un trône éternel.
Ézéchiel 37, c'est très intéressant, il n'ira pas voir, mais Ézéchiel 37, il donne une belle définition des deux royaumes qui reviennent à la vie.
C'est pour ça que de dire qu'il n'y a plus de futur pour Israël, mais il y a tellement d'endroits dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a un futur pour Israël. Même dans
Une
la tribulation
chance de
pendant.
lire littéralement la parole de Dieu. Parce que ceux qui disent qu'il n'y a plus d'Israël, c'est parce qu'ils disent que l'Église puis Israël, c'est la même chose.
Ouais, ça, ils spiritualisent les choses, les promesses faites à Israël, puis
Ouais.
les donnent à l'Église. Mais c'est étonnant qu'ils prennent les bénédictions, mais ils ne prennent pas les malédictions qui étaient prononcées sur Israël. On ne les veut pas, ceux-là. On veut juste les bénédictions.
De toute façon, dans l'histoire, j'avais lu j'ai suivi quelques reportages, puis toute nation qui a essayé de s'élever comme Napoléon, Hitler, ont été détruits. Ils se sont détruits. Et, les Mayas et les Incas, j'avais vu un bon reportage là-dessus qui disait que la déchéance morale était à la source de leur destruction. Et quand on regarde l'Amérique, ben, on peut poser quelques questions.
Oui, c'est ça. Ça devient évident qu'il y a un ouvrier qui est en train de scier des poutres, puis le maçon, il enlève la clé, puis.
Il y a des tours qui tombent.
Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est une leçon, ça.
C'est une leçon. C'est une leçon, oui.
L'avertissement.
Tranquillement, l'œuvre se fait, puis tout l'édifice s'écroule dans un instant.
Ah, vraiment, ça s'est fait de même.
Oui.
En tout cas.
Il y a une parole que j'ai pu vérifier dans mon travail, c'est que le méchant progresse, mais la ruine est soudaine.
Oui, c'est vrai.
Un proverbe.
C'est l'orgueil aussi, hein, quand l'orgueil, c'est là qu'on tombe. Parce que celui qui se croit debout prend garde de tomber. L'orgueil précède la chute. Et le Seigneur est le seul qui peut dire qu'il est un, puis tout en le demeurant, hein, quand je suis doux et humble de cœur.
Ça fait ça d'abord. Ça fait quand même.
Le Seigneur, qui est le dernier forgeron, il va vaincre l'Empire romain restauré. Ça va être l'Empire romain restauré. Je ne
Puis
suis pas
tout.
tellement avant en histoire, mais quand est-ce que l'Empire romain est tombé? C'est dans les premiers siècles, je pense, après Jésus-Christ.
L'Empire romain n'a pas été conquise. L'Empire romain s'est effrité. C'est les pays d'Europe qui sont l'Empire romain. Elle s'est effritée dans les pays d'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là. Ça c'est l'Empire romain désintégré. Mais elle n'a pas été conquise encore. Mais dans sa. Puis quand elle va renaître, quand elle va revenir, bien là, ça va être quelque chose qui va vraiment éblouir les gens là, quand l'Empire romain va être reconstitué. Là, ils vont dire, waouh, ça va être un empire puissant. On pense aux États-Unis maintenant, mais les États-Unis sont fragiles aussi à ce moment-ci. Comme Richard disait, l'Amérique, là. Puis pourquoi? Ben, c'est encore à cause de l'iniquité. On sait que même dans les élections passées, l'enjeu, c'était quoi? Ben, c'était l'avortement, c'était l'homosexualité, c'était ça qui était l'enjeu. C'est triste de voir qu'on est rendu à ce point-là, là. Mais c'est là qu'on en est rendu. On est près de la chute.
Déchéance morale.
C'est ça, ouais.
Pour le retour d'Israël,
On pourra peut-être regarder dans l'Épître aux Romains au chapitre 11,
Oui.
versets 23 et 24. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier?
Ouais.
Voilà la puissance de Dieu.
Ben oui, il est
Ça
capable, c'est ça.
nous montre que Israël va être regreffé de nouveau.
Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ben oui, c'est ça, la parole le dit. Si la parole le dit, on peut s'y fier. Hein? C'est le Seigneur qui est en arrière de tout ça, puis qui agence tout ça. Fait qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On va terminer par un mot de prière pour ceux qui doivent partir. Puis, s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut jaser. Et on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore parce que on sait, Seigneur, que c'est toi qui donnes la domination, c'est toi qui donnes la puissance, la force et la gloire. Mais tu la donnes, Seigneur, puis nous, les hommes, on s'enorgueillit de ces choses. On se pense invincible. Mais Seigneur, tu peux ramener à l'ordre. Et on sait que tu vas le faire parce qu'un jour, c'est ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui va s'élever puis qui va devenir cette montagne-là, Seigneur, qui va dominer. C'est pour l'éternité. On t'en rend grâce, Seigneur, parce que lui, ça va être un règne de justice et de paix, de prospérité. Merci encore une fois, Seigneur, pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, que tu es au contrôle, parce que ces nations-là qui ont dominé et ont été méchants, Seigneur, ils ont été orgueilleux, puis tu les as abaissés avec ces forgerons. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.